moins de 2 semaines de la fin de la session extraordinaire, les matières prévues au calendrier ne sont pas encore examinées. Au nombre de celles-ci, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, le contrôle parlementaire et l'examen des lois et traités internationaux. Lundi, le président du bureau d'âge a plaidé auprès du président de la République pour un déblocage rapide des fonds afin de faciliter l'organisation de cette session extraordinaire. Quelle lecture faites-vous du déroulement de cette session extraordinaire? Pensez-vous qu'elle atteindra ses objectifs? Nous en parlons ce soir dans Dialogue entre Congolais. Participe au débat chez Ruben Okende, député national élu de la circonscription électorale de Lukunga dans la ville de Kinshasa. Il est cadre du parti politique Ensemble pour la République. Chez Ruben Okende, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Lucien Kiasongo, député national et secrétaire permanent adjoint du parti politique PPRD, il est aussi président de la commission PAJ à l'Assemblée nationale. Lucien Kiasongo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Professeur Alphonse Maïndo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne à Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Professeur Maïndo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Merci de nous suivre à Matadi, au Congo central, sur la 102.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocafi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le bureau d'âge de l'Assemblée nationale a encore une fois, a une nouvelle fois annoncé le report de la plénière de l'Assemblée nationale qui était prévue hier mardi 19 janvier, ce après un autre report vendredi dernier. À moins de 2 semaines seulement de la clôture de la session extraordinaire, la plénière d'hier mardi devrait statuer sur le vote du projet de loi autorisant la ratification de l'accord créant la zone de libre-échange continentale africaine. Le bureau d'âge a tout de même rassuré les députés que tout était mis en œuvre pour la reprise des travaux dans les meilleures conditions pour tous. Selon Bosoko Dia, son bureau pense vider toutes les matières prévues pour cette session extraordinaire, notamment le renouvellement du bureau et le contrôle parlementaire avant la clôture de la session. Dona Madimba.
S'il y a un point qui ne peut souffrir d'être traité dans cette session extraordinaire de l'Assemblée nationale, c'est bien le vote et l'installation d'un nouveau bureau définitif. Le président du bureau d'âge faisant intérim actuellement dans cette institution, Mbosoko Dia, a beau crier son optimisme de remplir pleinement le programme de cette session extraordinaire, mais dans la pratique, il y a de quoi s'interroger. À 2 semaines de la clôture prévue de la dite session, aucune procédure convoquant le vote des animateurs du nouveau bureau définitif de l'Assemblée nationale n'est observée. Des menaces de destitution du bureau provisoire Mbosso se sont faites entendre il y a à peine quelques jours. Et lundi encore, le président Mbosso Kodia a rencontré le président de la République pour réclamer le budget attendu par son institution pour animer la session extraordinaire en cours.
Merci Dona Madimba. Chérubin Okende, député national élu de la circonscription électorale de Lukunga dans la ville de Kinshasa, vous êtes cadre du parti politique Ensemble pour la République, ouverte depuis le 5 janvier 2021. Nous sommes à moins de 2 semaines de la clôture de la session extraordinaire. Pourquoi les points inscrits à l'ordre du jour ne sont toujours pas examinés?
Vous me permettrez, madame, de vous présenter d'abord mes vœux les meilleurs et aussi le même vœu s'adresse à tous les auditeurs de la radio onusienne. Je profite aussi de la même occasion pour présenter le vœu à l'honorable Lucien Kassongo et au professeur Maïndo.
Merci.
Ceci étant, en ce qui concerne le calendrier, vous savez que pour une session extraordinaire, le calendrier a toujours été très contraignant. Il faut le respecter. Notre vœu à nous est que nous puissions arriver à épuiser tous les points qui sont inscrits dans ce calendrier-là. Mais nous n'oublions pas non plus que la manière que je qualifierais d'incorrecte avec laquelle le bureau d'âge a eu à faire la remise reprise avec le bureau déchu, cette manière, de mon point de vue, ne permet pas de mettre à l'aise le bureau d'âge à affronter les défis qui sont les siens. On parle aujourd'hui de budget et confort. Il paraît qu'ils n'ont rien trouvé dans l'escarcelle de l'Assemblée nationale, et tout cela ramène un peu trop de polémique. Même sur le budget pour la session extraordinaire, toujours auprès de nos compatriotes, de même famille politique ici, je insiste, la famille politique à laquelle appartient l'honorable Nkassongo, le FCC pour ne pas citer cette famille, continue toujours à nous perdre dans des controverses. Est-ce que le budget est exorbitant? Est-ce que le budget fait comment? L'a-t-on déjà libéré ou pas? Bon, tout cela ne rajoute qu'aux incertitudes. Sans compter la fameuse pétition contre le bureau d'âge n'a procédé qu'à la déstabilisation de ce bureau que nous nous regrettons du fait que ça joue à des dilatoires pour que nous ne puissions pas aller directement dans le but. Donc je crois que nous avons tout intérêt à capitaliser le temps qui reste pour que nous puissions examiner tout le point inscrit au calendrier de cette session extraordinaire. Donc j'insiste que nos compatriotes du FCC puissent entendre raison, surtout que ceux qui sont dans le bureau d'âge sont issus de leur famille politique. Donc nous, dans ma famille politique, dans l'ensemble changement, avec tous nos deux groupes parlementaires, MS G7 et AMK et Alliés, nous ne posons pas de problème, nous sommes disposés à travailler d'arrache-pied pour que nous puissions d'ailleurs profiter du temps qui reste pour aller en face de nos électeurs, leur rendre compte que la matière politique elle est très abondante, ils ont besoin de le savoir, et même la situation sociale de la population dans nos circonscriptions, elle est très préoccupante. Donc nous avons tout intérêt de profiter aussi du temps de nos vacances parlementaires.
En convoquant cette session extraordinaire, au préalable, il ne fallait pas s'assurer qu'il y avait un budget pour ça.
Bon, de toutes les façons, nous, nous avons demandé l'audit des comptes de l'Assemblée nationale. Ça, c'est vraiment sûr. Nous allons réclamer cet audit parce que les montants exorbitants qui sont en train d'être exhibés sur le dos des députés, pendant que nous sommes à précarité dans laquelle nous passons même nos vacances parlementaires et même la situation régulière du député, ça ne fait que nous exposer notre réputation en pâture en tant que député. Et là, il n'y a pas de coloration politique aucune, parce que ces montants exorbitants qu'on est en train de réclamer à tout moment font voir et à nos familles et à nos électeurs. Non, le député aujourd'hui serait dans une aisance non autrement qualifiée. Et pourtant, même l'honorable Lucien Kassongo connaît la difficulté qui est nôtre pour répondre aux attentes de nos électeurs. Pour aller même en vacances parlementaires, c'est extrêmement difficile. Moi qui habite dans ma circonscription, vous savez qu'il y a des exigences logistiques quant aux vacances parlementaires, aller au contact avec nos électeurs. Donc je pense que de ce point de vue, ça nous prouvera davantage si la gestion du bureau déchu a été catastrophique ou calamiteuse, le que nous allons demander pourra nous permettre de clarifier. Ici, je ne dis pas que je accuse déjà que cette gestion a été calamiteuse, c'est une présomption, mais à l'audit que nous allons commander pour nous confirmer si oui ou non cette lecture est vérifiée, et nous en tirerons toutes les conséquences nécessaires.
En dehors de ce problème de budget, vous pointez le doigt le FCC qui serait à la base de ce retard que connaît l'Assemblée nationale. Mais quand on discute avec certains députés du FCC, ils vous disent que c'est parce que au sein de l'Union sacrée, hein, les chefs des partis politiques ne se sont pas encore mis d'accord sur les partages des postes, ce qui freine le bon déroulement des plénières à l'Assemblée nationale.
C'est archi faux, parce que cela ne pouvait pas contrarier notamment l'examen de la proposition ou du projet de loi de ratification. Ça n'a rien à voir. Et encore que
les députés sont plus préoccupés par cette affaire d'union sacrée, de la nouvelle majorité qui devrait se constituer.
Nous ne sommes pas d'accord, madame. Ça, c'est une manière de nous imputer des responsabilités sur la gestion de ce bureau d'âge qui ne nous incombe pas. Donc il faudra pas, parce que c'est là aussi l'indélicatesse politique. Lorsqu'il y a des faiblesses quelque part, on veut chercher des boucs émissaires dans l'autre famille politique. Non, je me dis, on doit être correctement, politiquement correct. Aujourd'hui, c'est la question de gérer l'agenda de la session extraordinaire. Ceux qui ont cette responsabilité n'ont qu'à le faire. Mais nous déplorons le fait que, ça vous le savez, des pétitions intempestives contre le bureau d'âge, ça nous a fait perdre quelques jours, ce n'est pas bien. Les contraintes budgétaires et logistiques à en croire, parce que là, ça n'engage pas de responsabilité, à en croire le bureau d'âge. Cela, tel qu'ils ont trouvé la situation catastrophique, entre guillemets, ça ne leur permet pas de mieux apprécier les contraintes liées à l'organisation matérielle et logistique de la session extraordinaire. Donc, c'est des contraintes dont nous ne devons pas répondre. Ça ne relève pas de nous, ça ne relève pas de mon groupe parlementaire ni de ma famille politique. Donc, c'est cela notre point de vue par rapport à cette question, madame.
Gerbin Okende, qu'est-ce qui serait prioritaire aujourd'hui pendant cette session extraordinaire de l'Assemblée nationale? Il y a plusieurs matières, entre autres l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, le contrôle parlementaire, l'examen des lois et traités internationaux. Qu'est-ce qui devrait être prioritaire?
Tout est arrangé dans l'ordre de priorité, d'autant plus que le calendrier a déjà été adopté. Moi, je l'ai dit, on n'a pas d'excuse aucune pour porter outre mesure la question du remplacement du bureau déchu, donc l'élection et l'installation du bureau définitif. Nous devons le faire, absolument. D'ailleurs, c'est la question centrale qui justifie la convocation de cette session extraordinaire. Mais qu'à cela ne tienne, il a déjà été prévu le contrôle parlementaire et ça va de soi. Tant que se retrouvent les représentants du peuple en session, ils ne doivent pas escamoter la mission essentielle, la mission fondamentale des représentants du peuple, le contrôle parlementaire, parce que nous risquons de laisser encore la porte ouverte à l'écurie que nous avons eue à implorer la gestion de la Respublica. Il y a aussi cette loi qui est déjà à la disposition des députés, il suffit de programmer une plénière pour que nous sachions si oui ou non il y a opportunité de pouvoir voter en faveur de cette ratification pour le moment ou pas. Donc c'est cela. Et moi, ma famille politique, je ne veux rien anticiper à un point de vue sur même cette loi de ratification pour éviter une certaine précipitation inconsidérée.
Le contrôle parlementaire ne peut pas se faire après l'installation du bureau définitif?
Mais puisque c'est déjà prévu dans le calendrier, madame, nous attendons les diligences du bureau d'âge pour voir sa capacité de gérer l'Assemblée nationale. C'est déjà prévu dans notre calendrier tel que nous avons adopté. Vous savez que dans les pratiques parlementaires, la plénière elle est souveraine. Donc de moi-même, je ne peux plus ergoter sur un rapport quelconque d'un point précis qui est prévu à l'ordre du jour. Mais je comprends. Bon, excusez-moi, je voudrais taquiner un peu mon ami l'honorable Lucien Kassongo. Je comprends sa frilosité par rapport au contrôle parlementaire parce que bon, il y a quelque chose qui redonne.
Lucien Kassongo, député national et secrétaire permanent adjoint du parti politique du PRD. Vous êtes aussi président de la commission PAJ à l'Assemblée nationale. Quelle lecture vous faites du déroulement de cette session extraordinaire? On vous accuse, vous, FCC, de bloquer les travaux de la session.
Mon estimé collègue Chéribé Okende, je présente mes vœux le meilleur à tous les auditeurs de la radio Okapi. Je voulais commencer, honorable et madame la journaliste, par le commencement. L'élément déclencheur du processus de la convocation de la session extraordinaire, c'est l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu le 15 décembre de l'année 2020. Et cet arrêt, et la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur les RCONS 1438 à la demande du bureau d'âge. Le bureau d'âge a saisi la Cour constitutionnelle pour demander l'autorisation de prolonger son mandat, parce que quand vous lisez l'article 31 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la mission qui était dévolue ou qui est dévolue au bureau d'âge en matière de pétition, c'est de présider la séance de vote ou d'examen qui conduit au vote de pétition. Point à la lettre. Mais comme tous les membres du bureau, les cinq, étaient tombés par pétition, le sixième membre était déjà tombé avant, il ne restait que l'examen du dossier ou de la pétition du questeur adjoint. Et le bureau n'avait pas la qualité de convoquer une séance en dehors de celle qu'elle avait présidée le 10 décembre. On a saisi la Cour constitutionnelle pour que la Cour puisse autoriser au bureau provisoire ou au bureau d'âge de pouvoir continuer comme bureau d'âge.
Et la Cour a autorisé.
La Cour a autorisé au bureau d'âge. Quand vous lisez l'arrêt de la Cour, cet arrêt rendu le 15 décembre 2020, la Cour a utilisé deux verbes. Le premier verbe, on autorise au bureau d'âge de proroger son mandat. Parce que le mandat était, s'était arrêté avec l'élection, avec les pétitions. La Cour a autorisé au bureau de proroger son mandat. Deuxième verbe que la Cour a utilisé, habiliter le bureau. Donc, on a autorisé et on a habilité le bureau. Un, l'habilitation du bureau consiste à deux points. Premièrement, on demande au bureau de convoquer la session extraordinaire parce que le bureau d'âge n'avait pas qualité de convoquer la session ordinaire, extraordinaire. La Cour autorise au bureau de convoquer une session extraordinaire et laquelle session doit se pencher sur deux matières. Point. La première matière, c'est de continuer avec l'examen de pétition pour le caissier adjoint. Deuxième matière, c'est organiser l'élection du bureau définitif et tout devait se faire dans l'intervalle d'un mois. C'est ça le pouvoir, c'est ça la mission que la Cour a conférée au bureau d'âge. Mais curieusement, le bureau d'âge s'est arrogé le pouvoir d'ajouter les matières autres que celles que la Cour constitutionnelle lui a attribué la compétence.
Vous parlez de quelles matières?
Ce sont les deux matières qu'on a ajoutées. Le bureau d'âge joue le rôle du bureau provisoire. Le bureau provisoire n'a pas mission de faire voter les lois. Le bureau provisoire n'a pas mission de faire contrôler la gestion de l'État. C'est le bureau définitif. Et la Cour constitutionnelle était précise. Elle a bien dit, leur mission, nous vous habilitons à poser tel acte et on doit rester dans le cadre là.
Et c'est la raison pour laquelle vous, du FCC, vous perturbez les plénières.
Le FCC n'a jamais perturbé la plénière. Nous avons dit, on ne peut pas mettre... ajouter un seul mot, un seul titre ou quoi, ou une nouvelle matière sur la matière qui relève de la compétence du bureau d'âge. Et c'était la première difficulté, raison pour laquelle, quand il y a eu trop de tiraillements, on a saisi la Cour constitutionnelle. Le FCC a saisi la Cour constitutionnelle. Le FCC a demandé au bureau d'âge que le bureau d'âge n'avait pas respecté le prescrit la teneur de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui se pose à tout le monde. Et la Cour s'impose au bureau, la Cour s'impose, l'arrêt de la Cour s'impose à toutes les institutions et le bureau d'âge n'est pas épargné. Voilà pourquoi il y a eu des disputes sur d'abord les matières qui devraient être traitées au calendrier de la session extraordinaire. Et vous savez vous-même, vous voyez vous-même ce qui se passe. De report en report, de report en report, de report en report. Et les motifs qu'on avance aujourd'hui, ce sont des moyens. Pour examiner, ce n'est pas le premier jour du mois qu'on fait les droits de la session extraordinaire. On fait ça même à la fin. Et quand on dit non, il faut l'organisation matérielle, le mois de janvier, on a déjà payé les frais de fonctionnement au bureau.
Selon vous, Lucien Kasongo, qu'est-ce qui serait à la base de ce retard?
Ce qui serait à la base de ce retard, ce sont des calculs politiciens. La matière essentielle qui reste au calendrier, c'est le vote du bureau définitif. Et vous savez vous-même, pour voter le bureau définitif, les forces en présence doivent se mettre d'accord. Et vous suivez vous-même les contradictions de matin soir du côté de l'Union sacrée. Tantôt, l'État a demandé l'Assemblée nationale. Tantôt, c'était le composant qui va prendre l'Assemblée nationale. Ce sont là les problèmes et non les problèmes du FCC, madame. Est-ce qu'on a donné le calendrier de l'examen et du vote? Il n'y en a pas. Des dépôts de candidature, il n'y en a pas. Est-ce qu'on avait signé la décision qui convoquait les députés pour pouvoir donner le chronogramme de l'élection du bureau définitif et qu'on a boycotté la plénière? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, le problème est ailleurs. Ce n'est ni l'argent, ni le FCC. C'est le problème que les composantes, toutes les familles politiques, tous les regroupements de partis politiques en présence cherchent à se retrouver dans ces bureaux-là. C'est ça où il y a le problème.
Vous êtes sûr, honorable Lucien Kasongo, que le problème de budget ne se pose pas. On a suivi tout à l'heure Chérubin Okende qui nous a dit que lorsque le bureau d'âge est entré en fonction, la caisse était presque vide. On ne peut pas organiser cette session sans argent.
Que le bureau sortant a laissé dans la compte de l'Assemblée nationale le 2 500 au-delà de 1 000 dollars. Si pas 2 500 000, 3 millions. Et il y avait l'argent. Cela n'avait rien à voir avec la session extraordinaire ou la session ordinaire. Il y a le frais de fonctionnement qu'on donne. pour le mois de janvier. Il n'y a pas de matière spécifique, il n'y a pas d'activité spécifique qu'on a traitée. Et on donne le, chaque mois, l'Assemblée nationale obtient une dotation. Mais le règlement et la loi de la République, la loi de finances, a voulu qu'en cas d'une session extraordinaire, qu'on puisse donner le frais d'installation, qu'on puisse donner certains droits aux élus et à l'administration. On n'en disconvient pas. Mais ce n'est pas un obstacle pour qu'on puisse convoquer la plénière. On nous donne le calendrier de l'élection du bureau définitif. C'est ce que nous attendons. Toutes les matières ici, c'est une diversion. C'est une distraction pure et simple pour que le temps passe et par la fin qu'on puisse dire que non, les FCC avaient bloqué. On ne sait pas, les FCC a bloqué quoi? Nous espérons que, avant d'aller en vacances, nous aurons un bureau définitif parce que qui est compétent pour traiter de matières. Notre mission, c'est de légiférer, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Mais on ne peut pas le faire avec le bureau d'âge qui n'a pas le pouvoir.
Professeur Alphonse Maïndo, docteur en sciences politiques de l'université de Sorbonne, Paris 1, et enseignant à l'université de Kisangani. Professeur, comment vous analysez le déroulement de cette session extraordinaire? D'un côté, vous avez ceux qui pointent du doigt le FCC d'être à la base de ce retard que l'on observe. De l'autre côté, le FCC parle des distractions pour faire passer le temps que les choses s'organisent au niveau de l'Union sacrée. Quelle est votre lecture à vous par rapport au déroulement de cette session extraordinaire?
Bien, merci beaucoup, madame. Je voudrais d'abord saluer les honorables Lucien Kassongo et Chérubin Okende, ainsi que tous les auditeurs. Alors, pour revenir, je pense que pour moi, la vraie question qui se pose pour cette session, il ne faut pas la chercher au sein de l'Assemblée nationale. Si on veut comprendre ce qui se passe actuellement lors de cette session, il faut se mettre en dehors de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, il faut aller voir l'accord entre les FCC et les CACH pour gouverner, il faut voir la crise qui s'en est suivie entre ces deux partenaires, il faut aller voir aussi la crise entre le président de la République et le président, l'ancien président, donc le président Honoré. Donc, c'est là qu'il faut aller voir. Qu'est-ce qui se passe? On a une crise entre ces deux partenaires, entre ces deux individus, ces deux personnalités, et qui n'arrivent pas à s'entendre sur l'essentiel. Et ça crée une crise. Et on cherche, le président en place, il cherche à créer une nouvelle majorité. Et cette nouvelle majorité, pour la créer, ce n'est pas facile parce que les FCC avaient pris soin de se donner une large majorité au sein de l'Assemblée. Donc, quel que soit le cas de figure que vous allez prendre, vous devez avoir, vous aurez toujours une immense majorité des gens qui viendront du FCC. C'est ce qu'on a là actuellement. Dans l'Union sacrée, on a plus d'une centaine de députés qui sont FCC. Et donc, est-ce que ces gens qui sont FCC vont venir à l'Union sacrée sans avoir de garanties, sans avoir des espèces d'assurance vie pour eux, pour dire, voilà, nous aurons tel poste, nous aurons tel poste, etc. Et donc, ça pose un problème. Alors maintenant, les autres qui viennent, qu'il s'agisse d'Ensemble ou du MLC, quand ils viennent, ils veulent avoir aussi, ils ont des prétentions, ils veulent récupérer des postes. Et donc, pour récupérer les postes, on leur dit, voilà, vous représentez quel poids politique au sein de l'Assemblée. Quand vous ne représentez pas un poids assez important, donc vous n'aurez pas un poste important, ni à l'Assemblée, ni au gouvernement. Et donc là, ça cloche. Et donc, on est obligé de revenir encore au point de départ pour dire, voilà, il faut que les FCC et les CACH puissent avoir des postes les plus importants. Donc, c'est, à mon avis, c'est à ce niveau-là que se situe le vrai problème de ce qu'on a là. La question du budget, pour moi, c'est un faux fuyant. En fait, c'est une manière de nous distraire pour nous dire, voilà, on a un problème de budget, c'est pour ça qu'on ne fait pas ça. Pour organiser le vote d'un bureau définitif, vous avez 500 députés pour organiser ça. Ça ne demande pas un gros budget pour ça. On peut le faire comme on fait. Les profs de l'UDUKIN, ils sont plus de 1000. Ils organisent leurs élections pour avoir leur bureau composé d'une dizaine de personnes sans jamais mobiliser d'immenses fortunes, sans jamais faire... Donc, je pourrais... Même les étudiants que dans nos universités, à l'UNIKIS, nous avons près de 10 000 étudiants pour élire les représentants, ça ne demande pas d'immenses budgets, tout ça. Et même, on ne peut pas faire... on ne peut pas mettre les paiements des émoluments qui sont un droit. Et vous, c'était un droit pour les députés. On va mettre ça en avant pour justifier qu'on n'a pas fait si on n'a pas fait ça. Parce que, dans toute logique, quand vous travaillez, vous êtes payé à la fin de votre tâche. Et donc, même les émoluments qui sont dus aux députés ne seront payés qu'à la fin de la session. Donc, pour moi, ça, c'est un faux fuyant pour masquer, si vous voulez, les vrais problèmes politiques que nous avons là. Alors, cela me ramène à dire une chose importante. c'est qu'on est là face à une situation où ce que certains ont appelé des décisions ou de stratégies absurdes. Quand on voit Christian Morel dans sa sociologie des erreurs radicales et persistantes, ou l'autre, il y a une dame là qui avait parlé de ça aussi, Maya Beauvalet, hein, et qui, dans stratégie absurde, comment faire pire en croyant mieux faire. Le titre est tout à fait éloquent par rapport à cette question-là. Ça signifie quoi? Le président de la République, il s'est dit, moi je dois faire une action pour rencontrer les attentes et les aspirations du peuple, ce qui est légitime, et c'est pour ça qu'il est président de la République, mais les mesures, les décisions qu'il prend pour arriver à ça, ne le conduiront jamais à ça. Ça va le conduire à l'effet contraire. Donc on va prolonger l'agonie du peuple congolais, on va prolonger, si vous voulez, l'action gouvernementale, parce qu'en ce moment, on se retrouve à quoi? On se retrouve à une situation telle que le gouvernement est paralysé, les gouvernements provinciaux sont paralysés, l'Assemblée est paralysée. En fait, il n'y a plus aucune institution qui fonctionne correctement. Résultat, c'est quoi? C'est que les vrais problèmes du peuple congolais, l'insécurité à l'Est, la famine, la santé, tout ça, ne sont pas pris en compte parce qu'on attend, on est tous suspendus à ça. Voyez-vous, c'est ce que je disais. Donc, on a là une situation de stratégie et de décision absurde alors qu'on voudrait résoudre les problèmes du peuple congolais. Et donc, il faut repenser les paradigmes de la solution aux problèmes du peuple congolais. Et cette révision nous conduirait à quoi? Mais ça nous conduirait justement à se poser la bonne question. Qu'est-ce qui doit être fait si on veut avoir un parlement qui soit véritablement un parlement acquis au peuple? Si on veut avoir un parlement qui puisse nous donner une majorité en tant que président de la République, qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas chercher à débaucher les gens. Parce qu'en cherchant à débaucher les gens d'une majorité de famille, vous reproduisez les mêmes mots que vous aviez, si vous voulez, dénoncer, que vous vouliez combattre. Et donc, vous allez les avoir chez vous, à la maison. Et c'est ça qui va encore empirer la situation au lieu de résoudre le problème du peuple congolais.
Professeur Alphonse Maïndo, à moins de 13 jours de la clôture de la session extraordinaire, les matières prévues au calendrier ne sont pas encore examinées. Il y a cet auditeur Alphonse Tchefou depuis Kananga qui pense que les autres matières peuvent être traitées à la session de mars, car ce qui est important pour le moment, c'est se doter plutôt l'Assemblée d'un bureau définitif.
Oui, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec cet auditeur, parce que les bureaux provisoires, qui est donc le bureau d'âge, sa mission constitutionnelle et légale, c'est fondamentalement mettre en place un bureau définitif qui va organiser maintenant l'activité parlementaire ordinaire, c'est-à-dire le contrôle parlementaire ou l'adoption et la ratification des lois et traités internationaux. On ne peut pas demander à un bureau provisoire de faire ce travail-là. Je n'ai pas compris comment nos députés, qui sont censés être la crème de ces pays, puissent se permettre de mettre dans une session extraordinaire dirigée par un bureau provisoire, puissent mettre ces questions ordinaires dans cette session-là. C'est impensable. Il faut simplement oublier ça, se concentrer sur l'essentiel, mettre en place un bureau définitif qui viendra à la session de mars pour traiter toutes ces questions-là. Et à mon avis, le bureau ne va pas se mettre en place facilement parce que les tractations, comme je le disais tantôt, sont compliquées et complexes entre les différentes forces politique en présence au sein de cette assemblée.
Merci professeur, le standard n'arrête pas de sonner. Chérubin Okende, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Oui. Marie-Paul Awa, depuis Kisangani. L'autorisation par la Cour constitutionnelle au bureau d'âge de laisser la latitude d'examiner plus de 2 grandes matières lors de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale est à la fois une mission délicate pendant cette période de l'imbroglio politique. Et cela constitue une violation de la Constitution et des règlements intérieur de l'Assemblée nationale. À mon avis, après la déchéance des bureaux Mabunda, le bureau d'âge lors de la session extraordinaire ne devrait qu'examiner un point unique, focalisé sur l'élection et l'installation des membres des bureaux de l'Assemblée nationale. À cette allure, le bureau d'âge est foncé dans l'embarras et risque d'aller au-delà des temps impartis selon les us et coutumes d'une session extraordinaire. Bref, le bureau d'âge ne devrait que traiter une question unique au lieu de trois grandes questions inscrites à l'ordre du jour, quand dit-on qui trop embrasse ma lettre.
Cher Ruben Okende.
Je comprends bien Marie-Paul. Simplement, j'ai beaucoup de réserves quant à ergoter autour de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Je conviens avec lui que une session extraordinaire a des matières bien précises. Et en l'occurrence, j'ai noté notre volonté, surtout notre détermination à nous qui avons même initié les pétitions contre le bureau, de pouvoir mieux organiser rapidement, mettre en place le bureau définitif. En tout cas, nous avons tout intérêt que de pouvoir le faire. Certaines incohérences, entre guillemets, du bureau d'âge ne doivent pas nous être imputées, sinon ça serait malencontreux. Vous me permettrez de rencontrer l'analyse du professeur Maïndo. Il a clairement situé le problème. La crise que nous avons depuis la fin des élections de 2019 provient d'une coalition contre nature, FCC Cash. Ils en sont arrivés eux-mêmes à reconnaître que cette coalition était très pernicieuse. Et c'est pour cela qu'ils ont tenu, le président de la République notamment, un acteur majeur à leur accord, qui demeure un accord existant à notre connaissance, parce qu'on ne l'a jamais vu, même si cela ressemblait à une fraude à la République, que dans les ordonnances, notamment le gouvernement, on puisse faire allusion à un accord sous sein privé et que nous ne connaissons pas. Donc la crise, la FCC Cash, est en train de se répercuter, de se prolonger encore une fois dans la mise en place que nous voudrions faire. C'est cela le fondement de cette crise. En fait, l'union sacrée, c'est un bouc émissaire. Mais nous devons veiller à ce que cela ne se répercute pas sur nous. Le problème de budget est un faux problème, un faux fuyant. Nous continuons aussi de le soutenir. Même pour organiser les élections du bureau définitif, nous sommes d'avis que on peut le faire avec des moyens de bord et arriver aux résultats qu'on préconise. Nous ne disons pas non plus qu'il est prioritaire aujourd'hui, avant de plonger tous les points qui sont inscrits à l'ordre du jour ou dans ce calendrier-là, il faut au préalable payer les émoluments de députés. Non, c'est ça l'image hideuse qu'on reflète auprès de l'opinion, comme si tous les députés n'étaient là que pour leurs propres intérêts. Nous, nous récusons cette approche-là, parce que tout dépend des diligences que ce bureau d'âge devra faire. Donc, je conviens avec le professeur Mendo, nous sommes ici dans le cas d'espèce, dans des stratégies absurdes. Il faudrait que nos patriotes de RCC cachent, avec ce jeu qui nous distrait inutilement. Nous devons savoir ce que nous voulons.
Merci.
Je félicite par ailleurs l'honorable Lucas Tacco, qui a démontré de sa constance politique. Bon, il ne m'interdira pas d'explorer d'autres membres de sa famille politique qui aujourd'hui font de la transhumance pour commencer à venir se déverser au sein des religions sacrées. C'est ce qui crée encore le trou qui nous amène à tout ce blocage.
Lucas Kassongo, on a une réaction pour vous qui nous vient de Bukavu.
Robert Baume de Bukavu au sud Kivu. Avec le temps qui reste pour clôturer la session extraordinaire à l'Assemblée nationale, le bureau d'âge ne sera pas capable d'atteindre ses objectifs. S'il ose, ce sera trop risqué. Je pense cependant qu'il ferait mieux qu'il se focalise sur la mise en place du bureau définitif. Quitte à ce dernier de traiter plus tard les matières prévues aujourd'hui à la session extraordinaire par le bureau d'âge.
Lucas Kassongo, il faut se focaliser sur l'élection du bureau définitif. Il estime que le bureau d'âge ne sera pas en mesure de traiter toutes les matières prévues pour cette session extraordinaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes de son avis?
Merci madame, je salue le professeur collègue Maïndo et pour son intervention. C'est comme je vous l'ai dit madame, j'ai suivi les deux auditeurs qui sont intervenus. Ils abordent dans le même sens que le FCC. Le FCC a donné son point de vue qu'on ne pouvait pas surcharger le calendrier et le pouvoir du bureau d'âge. La Cour l'a si bien répété encore que le pouvoir du bureau d'âge sont ceux du bureau provisoire. Et le bureau provisoire a des missions spécifiques lui confiées par les constituants de 2006. Premièrement, il faut valider le pouvoir des élus, faire rédiger le règlement intérieur qui conduit à la mise sur pied d'un bureau définitif. Et comme nous avons, les députés ont déjà été validés, nous avons le règlement intérieur qui est opérationnel, il ne restait qu'une mission. C'est le bureau définitif, il faut organiser le vote. C'est ce que nous avons dit. Et nous, au FCC, nous sommes d'avis que l'unique matière qui nous reste au calendrier de cette session, c'est le vote du bureau définitif. Et le reste, nous avons dit que ce sont des distractions, ce sont des diversions pour ne pas atteindre l'objectif qui est assigné plutôt au bureau d'âge. Il y a la procédure pour adopter le calendrier. Et d'ailleurs, cette procédure n'a pas été respectée par le bureau d'âge. On commence par la conférence de président. La mission dévolue à la conférence de président, c'est de préparer le projet de calendrier à se mettre à la plénière, ce qui n'a pas été fait. Et deuxièmement, depuis que le bureau d'âge est en train de conduire le débat, et n'a jamais accordé la parole, et le bureau n'a jamais accordé la parole à aucun député du FCC pour parler. Et comment on pouvait réagir alors qu'on est en train de faire le forcing? L'unique mission qui nous reste aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de dire, l'argent, le FCC, comme on a toujours pris le FCC comme bouc émissaire, quand le FCC est du côté Kabila, il est bouc émissaire, ce sont tous les députés sont des députés nommés, les députés désignés, les démons, mais quand ils traversent le camp, ils deviennent les anges. Et voilà, c'est ça la difficulté aujourd'hui.
Merci.
Et encore les collègues Okende qui regrettent comment les députés du FCC sont en train de faire la transhumance. C'est la stratégie que vous avez mis en place dans l'Union sacrée pour déstabiliser le FCC. Et nous sommes sereins, nous attendons qu'on programme le calendrier d'élection du bureau. On verra si réellement il y a eu transhumance, si réellement tous les députés qui sont partis de l'autre camp resteront de l'autre côté, parce que c'est un des autres caractéristiques aujourd'hui que nous vivons du côté. Là où nos collègues sont partis.
Merci Lucas Kasongo. Je veux vous redonner la parole pour conclure tout à l'heure. Professeur, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Bondo, voilà, dans la province du Bazuélé.
C'est bienvenu Mbali, dans la province de Bazuélé, territoire de Bondo. Notre pays n'a pas de chance au vu de tout ce qui se passe dans la chambre des représentants. On se rend compte que toute la classe politique RD congolaise est pleine de démagogues. Car comment convoquer une réunion, une session extraordinaire, sans qu'on ait prévu un budget pour cet effet? Où est le principe gérer, c'est prévoir? Est-ce que dans deux semaines, nos députés pourront-ils épouser toutes les matières qui sont afférentes pour la session extraordinaire? Par ailleurs, nos représentants ont excellé, ou bien nos députés ont excellé dans les querelles politiciennes, tout en ignorant simplement l'essentiel de cette session extraordinaire. Puisque, à mon avis, la priorité était qu'on puisse d'abord installer le bureau définitif et qu'on puisse faire la suite. Mais jusqu'ici, on voit que le blablabla, il n'y a pas ce qui est déjà réalisé.
Professeur Maïndo, tous les auditeurs reviennent sur ce qui est prioritaire, c'est l'installation du bureau définitif. Le reste peut être traité à la prochaine session.
Oui, c'est non seulement une question de bon sens, mais c'est aussi une question de légalité constitutionnelle, simplement, de faire un bureau provisoire, que ce bureau mette en place un bureau définitif, et un point, un trait, il s'arrête là et passe le flambeau. Mais malheureusement, ça ne marche pas comme les gens voudraient le faire. Et je voudrais aussi dire que ici, ce n'est pas une question de chance. Voyez-vous, quand on parle de gestion des affaires d'un État, il n'est pas question de dire non, le pays n'a pas de chance. Non, c'est qu'on n'a pas les gens qu'il faut, ou si on a les gens qu'il faut, et ces gens-là ne prennent pas les décisions qu'ils devraient prendre, ils ne mettent pas en place les stratégies qu'ils devraient mettre en place. Et ils sont dans ce que j'ai appelé tout à l'heure des décisions, des stratégies absurdes. Ce qui nous conduit à des conséquences qui auraient pu être évitées si on restait dans le bon sens. Alors, je reviens encore, le bureau définitif ne peut pas être mis en place dans l'état actuel des choses tant qu'il n'y aura pas une solution en amont entre les principaux protagonistes de la crise actuelle, c'est-à-dire les FCC et les CACH avec leurs autorités morales. Il faut que ces gens-là parviennent à s'attendre, parce que c'est là que se trouve la clé du bureau définitif. Parce que qui va être président, qui va être vice-président, tout ça. Et je ne pense pas que les gens du FCC soient prêts à lâcher ces postes. Je ne pense pas que les gens de l'Union sacrée aujourd'hui soient prêts à lâcher ça. Donc il y a cette bataille. Et donc ils essayent de trouver des tractations en secret. Et quand on viendra maintenant à faire les plénières, tout ça, c'est simplement une formalisation. C'est comme ça que ça fonctionne en politique. Les vraies décisions sont prises en dehors de l'arène officielle. Et l'arène officielle vient simplement entériner. Quand on aura trouvé cette solution-là dans l'arène informelle, alors vous allez voir que le bureau définitif va être installé très rapidement, sans beaucoup d'accrocs.
Merci, professeur Alphonse Mahindo. Nous sommes à la fin de notre émission. Donc, professeur, pour vous, vous estimez que ce bureau n'atteindra pas ses objectifs en une phrase?
Bah oui, pour moi, les bureaux définitifs, il s'est donné des prérogatives qui dépassent ces prérogatives constitutionnelles et légales.
Le bureau d'âge, vous voulez dire?
Il doit rester sur terre pour réaliser ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire un bureau définitif, et il s'arrête là, il passe le flambeau.
Merci, professeur. Chérubin Hocken, de votre conclusion, 30 secondes.
Bon, de refuter ce prisme réducteur en disant que le pays n'a pas de chance. Non, c'est tellement réducteur que on risque de se retrouver comme devant une fatalité. C'est question de ceux qui ont la responsabilité de gérer les institutions. Et notre cas aujourd'hui, c'est de disqualifier la coalition FCC-CACH qui a démontré ses limites. Le problème de budget, n'ayons pas si rapidement la manière dans laquelle la passation de pouvoir entre le bureau d'âge et le bureau déchu.
Vous l'avez déjà dit, il faut conclure. Donc,
je conclue en disant que le souhait le plus ardent est que nous puissions arriver à la mise en place et à l'installation du bureau définitif. Et nous ne devons pas escamoter en tout cas le contrôle parlementaire qui a par ailleurs été aussi prévu.
Merci, Chérubin Okende. Lucien Kiasongo, conclusion.
Merci, Madame la journaliste. Vous comprenez que mon collègue Chérubin n'a pas les deux pieds sur terre dans cette question de la session extraordinaire. Et nous disons que il arrivait que le bureau d'âge ne nous amenait pas à l'élection du bureau définitif. Donc la mission pour laquelle la session extraordinaire a été convoquée ne sera pas atteinte et je ne voyerai pas pourquoi on doit pas payer les grosses sommes aux honorables députés alors que les deux missions qui leur étaient dévolues ne seront pas atteintes.
Merci, Lucas Kiasongo. Dialogue en Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe, Guimaté, Dunama Dimba, Axel Gonjo. Merci à Lengoy qui est à la mise en onde, présentation et coordination, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.